Voilà, merci d'être là. Et je voudrais en préambule vous dire comment j'ai découvert Marcel Jousse et ce que je lui dois. Je dois dire que je suis plus ému qu'à n'importe quelle autre causerie qu'on a pu faire, parce que j'accorde une importance considérable à l'œuvre de Marcel Jousse et parce qu'il a été pour moi un véritable guide et maître spirituel à un moment où j'étais dans un flottement inouï. J'ai fait des études de kinésithérapie, et en kinésithérapie, on s'intéresse qu'au physique. L'aspect psychologique était un petit peu mis de côté. Ensuite, j'ai fait tout un cursus aussi en psychologie, et là, l'aspect physique était complètement mis de côté. On ne voyait que ce qui se passait au niveau de la psychologie. Or, précisément, cette unité entre le physique et le psychologique était réalisée par mes meilleurs amis, qui l'un est rentré dans la méditation transcendantale, et où on rentrait dans un univers qui nous vient de l'Orient, mais où tout était compris comme un tout. On rentrait dans un système de pensée, et puis un autre de mes meilleurs amis est rentré dans l'anthroposophie de Steiner, où aussi on rentrait dans un système, cette fois-ci ésotérique et gnostique, mais où il y avait une cohérence. Et pendant ce temps-là, nous étions dans cette séparation entre le corps et l'esprit. Séparation entre le corps et l'esprit qui nous vient en France, particulièrement du cartésianisme. Avec Descartes, il faut séparer le monde de l'esprit qui serait au-dessus de la corporalité. Et nous ne sommes pas vraiment sortis de cette dichotomie entre le soma et le psyché. Et à ce moment-là, j'ai lu pratiquement tout ce qui avait trait au corps, aux gestes, etc. Et c'est ainsi que je suis tombé sur l'anthropologie du geste de Marcel Jousse. Anthropologie qui est un livre finalement plein de néologismes et assez difficile à comprendre quand on rentre directement dans ce livre sur l'anthropologie du geste de Marcel Jousse. Mais heureusement, je suis aussi tombé sur le livre de Gabriel Baron qui est « Mémoire vivante ». Marcel Jousse, mémoire vivante. Et par conséquent, là, ça a été pour moi une véritable découverte à travers cette Gabrielle Baron de redécouvrir Jousse et de redécouvrir la vie de Marcel Jousse. Parce que la vie de Marcel Jousse est le creuset même de son anthropologie. Et il se trouve que Marcel Jousse est un Sartois de notre région, un Sartois de Beaumont-sur-Sarthe, un Sartois enraciné dans notre terre et dans notre territoire sartois, dans notre paysannerie. Et ça, c'est très important parce que cet enracinement dans la corporalité est quelque chose de fondamental. Et précisément, nous le verrons comment Marcel Jousse a dû lutter pour toujours retrouver cette source paysanne par rapport à des gens qui étaient des intellectuels. Des gréco-latinistes, des gens qui avaient fait des études du grec, de latin, très poussées. Mais ces gens-là avaient perdu sans doute un contact avec le réel premier du paysan qui observe les lois de la nature. Alors, la maman de Marcel Jousse, qui s'appelait Honorine, elle était Honorine Carrel, elle était née à Ségri. À Ségri dans la Sarthe, c'est au nord de la Sarthe, hein, vous voyez. Et donc, j'ai encore un attachement particulier à Ségri, puisque mes ancêtres sont du Tronchet, c'est-à-dire à 4-5 km à vol d'oiseau de Ségri. Donc, c'est dire, voilà, une affinité aussi, un cousinage entre, voilà, cette petite Honorine Carrel, qui était née à Ségri, elle était orpheline de père et de mère et elle a été élevée par une grand-mère qui était totalement illettrée. Honorine Carrel, la maman de Marcel Jousse elle-même, n'avait été que 3 hivers à l'école. 3 hivers parce que, eh bien, au printemps, eh bien, il fallait se coltiner les travaux des champs et de journaliers. C'était des gens d'une pauvreté dont on n'imagine pas aujourd'hui l'extrême pauvreté de ces personnes-là. Mais riche de toute une tradition orale, riche véritablement de toute une tradition qui nous vient de la terre et qui nous vient d'une observation du réel paysan. Et cette Honorine Carrel, qui ne savait tout juste lire et écrire, savait un certain nombre de comptines sartoises, un certain nombre de petits récitatifs sartois, un certain nombre de petites formules d'observation du réel ancrées dans la réalité paysanne. Et puis, quelque chose d'assez étonnant qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, elle était capable de savoir les évangiles récités le dimanche pratiquement par cœur. Et Marcel Jousse s'est toujours interrogé de savoir comment sa maman était capable de rythmo-mélodier ses évangiles. Elle ne les récitait pas comme on récite ou quand on lit un texte, mais il y avait tout un rythme, tout un balancement, toute une dynamique de vie qui sourdait précisément de ses racines paysannes. Et donc, Marcel Jousse a été bercé au rythme de ses comptines, au rythme de ses évangiles rythmo-mélodiés, par sa maman quasiment inculte et par son arrière-grand-mère, alors là, totalement illettrée. Et puis il observait ce qui se passait à l'époque dans les veillées des paysans sartois. On n'avait pas la télévision à l'époque. Et les paysans sartois, quand ils se retrouvaient le soir à la veillée, au coin du feu, quand c'était l'hiver, et puis avec des longues veillées, ne serait-ce qu'au champ l'été, eh bien, il y avait toujours des anecdotes à raconter, toujours des saisies du réel, toujours une imitation des gestes de la nature et de ce qu'il se passait. Et donc cette formation première de Marcel Jousse, alors qu'il a fait des études très importantes par la suite, a été son creuset, et jamais il n'a oublié que, et il le disait, que c'était sur les genoux de sa maman qu'il avait tout appris de la vie. Parce que dans ce rythmo, cette rythmo-catéchèse, ce rythmo-balancement, eh bien, il y a une saisie du réel, et une saisie du réel dans sa dynamique vivante, dans sa dynamique de vie, dans son expression vivante, alors qu'il considérait que l'écrit, c'était coucher une partie de la vie, et on devenait, si on en restait à l'écrit, un petit mot qui est un néologisme qu'il employait, des plumitifs. Non pas des primitifs, mais des plumitifs. De manière un petit peu... pour dire, si vous voulez, que les gens qui n'ont affaire qu'à l'écrit, eh bien, ont perdu ce contact avec la réalité vivante de la vie. Cette pauvreté extrême, donc, Marcel Jousse en a été témoin, mais en même temps d'une richesse exceptionnelle, celle de la présence d'une maman qui l'aimait par-dessus tout, parce que précisément ses rapports aussi avec le papa étaient assez compliqués. Le papa était journalier et assez rapidement, le papa et la maman se sont séparés. Et puis Marcel Jousse a eu un frère qui s'appelait Marcel. Et alors qu'aujourd'hui, on donnerait pas le nom du prénom d'un enfant décédé, ben il s'est fait appeler Marcel aussi. Et donc voilà, il avait en lui cette mémoire aussi de la famille et de l'invisible. Voilà. Alors, il lui est arrivé une expérience tout à fait étonnante à Marcel Jousse quand il était petit. Il est allé, je ne sais pas par quel biais, parce que nous sommes en 1886. Il est né le 28 juillet 1886. Donc là, nous sommes aux confins de la fin du 19e et du début du 20e. Et vers l'âge de 12 ans, il est allé au Mans. Et au Mans, il est allé au musée de Tessé. Et au musée de Tessé, il a vu une petite momie allongée avec les premiers hiéroglyphes. Et ça l'a beaucoup surpris de voir qu'il y avait, non pas une écriture, mais des petits dessins qui représentaient la réalité sur cette petite momie. Et ça l'a fait travailler. Ça l'a... Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir qu'il parlait le sartois, hein, le patois sartois. Déjà, le français était déjà une autre langue. Et il s'interrogeait sur cette... Alors qu'il était de milieu oral, comment on pouvait coucher par écrit un savoir ? Or, cette petite momie a été pour lui saisissante parce que il y a quelques, je ne sais plus, 3000 ans, déjà, on avait essayé de retranscrire le réel à travers ces hiéroglyphes. Saisir le mouvement, le geste qui nous dit quelque chose du réel et qui a été perdu par l'écriture. Même si dans l'écriture, on retrouve des strates et des traces de cette réalité. Et notamment dans l'alphabet hébreu ou arabe, on va retrouver derrière chacun des caractères quelque chose d'une saisie du réel. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est pour dire combien, si vous voulez, notre langage écrit est d'abord un repérage très concret de la vie et des petites... Des choses tout à fait enracinées dans la réalité. Alors cette petite momie, il s'est dit, donc il y a un autre langage. Alors il était à cette époque-là en classe à Beaumont-sur-Sarthe. Et une question le taraudait, il n'était pas très docile à la catéchèse habituelle, parce que c'était un petit garrement, hein, capable de, qui était beaucoup mieux dans les champs que voilà. Mais une question le taraudait. Quelle langue a parlé Jésus ? Quelle était la langue de Jésus ? Alors, c'était pas le patois, hein, c'était pas le patois sartois, c'était pas le français, c'était même pas le latin qui était le langage de la liturgie de l'époque, c'était pas le grec non plus. Et il se trouve qu'il avait un vicaire. Le vicaire de Beaumont-sur-Sarthe à l'époque était quelqu'un qui était hébraïsant et araméisant. Donc il connaissait l'araméen et le... Et donc il a été le premier à dire à Marcel Jousse, mais Jésus parlait araméen. C'était la langue araméenne. Et c'est assez curieux parce que l'araméen, c'était pas la langue des intellectuels. La langue des intellectuels de l'époque de Jésus, c'était l'hébreu. Or, il se trouvait que dans les synagogues, la lecture à la synagogue se faisait en hébreu, mais il y avait besoin toujours d'un traducteur devant, qu'on appelait le paraclétaire, parce que les gens du peuple ne connaissaient pas et ne comprenaient pas l'hébreu, qui traduisait au fur et à mesure la parole de Dieu en araméen. Et lui faisait des parallèles avec ce qu'il avait vécu de gens qui parlaient le français, avec ces paysans de l'époque qui étaient véritablement enracinés dans le patois sartois. Je ne sais pas si vous connaissez des vieux sartois, il faut être vraiment du cru pour comprendre ce qu'ils racontent, hein, si vous voulez. Et donc, vous voyez et alors, ils voyaient ça donc, dans cette perspective du peuple hébreu, avec cette traduction en araméen, exactement comme à la messe à l'époque, on parlait le latin, mais il fallait avoir une transcription en français pour essayer de... Voilà, pour les, voilà. Et puis peut-être encore plus pour les patoisans, hein, de retraduire encore. Eh bien, celui qui faisait cette translation, cette transcription, était le paracliteur d'un nom grec, paraclet. Et vous connaissez ce mot, puisqu'on retrouve l'Esprit-Saint paraclet, c'est-à-dire celui qui va être en mesure de traduire la parole de Dieu dans une incarnation tout à fait concrète de la vie des gens. Et vous voyez un peu, c'est là ce premier parallèle que Jousse a pu faire dans sa propre vie. Et c'est très intéressant parce que, eh bien, il dit, quelle langue a parlé Jésus ? Donc l'araméen. Mais comment se fait-il que Jésus n'ait rien écrit ? C'est à partir des évangiles de Marc, de Luc, de Matthieu et de Jean qu'il y a une transcription écrite des paroles de Jésus. Mais Jésus lui-même n'a fait que quelques signes sur le sable au moment de la femme adultère, mais il n'a rien écrit. Par contre, on sait qu'il lisait. puisque à l'âge de 12 ans, il avait lu lui-même dans le texte auprès des grands savants et docteurs de la loi du temple de l'époque. Alors voilà, donc alors ça l'a beaucoup interrogé et marqué. Jésus n'a rien écrit. Exactement comme la culture dans laquelle il était imbibé, de gens qui étaient capables d'une saisie extraordinaire de la réalité des choses sans passer par la modulation de l'écrit. Alors, il a été repéré, bien entendu, comme étant extrêmement brillant et intelligent, avec des questions toujours pertinentes, toujours aussi décalées. Parce que quand on a été imbibé par cette glèbe sartoise, eh bien, il y a un décalage avec ceux qui sont dans l'intellectualité permanente, si vous voulez. Et donc, ces questions pertinentes ont quand même marqué tous ceux qui ont rencontré Marcel Jousse. Et donc, il est rentré ensuite, à 16 ans, à l'Immaculée Conception à C. Et là, il était tellement pétri de ce rythme qu'il avait eu, qu'il a redécouvert à travers ses études grecques et latines, la versification, et aussi à l'intérieur du grec et du latin, vous avez des rythmes. Hein. Il y a quelque chose qui est la scansion des vers grecs qui n'est pas la même que celle des vers français. Donc il y a un rythme qui est propre. Et à l'intérieur de ces possibilités du grec, qu'il a appris bien entendu par cœur et de manière remarquable, eh bien, il était capable de versifier en grec et même en latin. Si bien que ses petits copains, quand il y avait des devoirs à faire le lendemain et qu'il fallait rendre 4 vers en grec ou en latin, allaient voir Marcel Jousse qui, dans la nuit, cogitait cette histoire-là, se le mémorisait et le lendemain matin était capable de sortir des vers qui tombaient juste et de manière extraordinaire. Parce qu'il avait été modelé par cette rythmique de la vie que l'on va retrouver dans les strates du grec et du latin. Il a appris donc le grec et le latin par ce que l'on appelle la méthode des racines. Et quand on va chercher effectivement les racines du grec, on approche toujours des choses extrêmement concrètes. C'est exactement pareil en hébreu. Toi qui as fait du grec, hein, quand on va retrouver la racine des mots grecs, on va retrouver des choses très en saisie avec le réel. Alors qu'après, à force d'élucubration de la pensée, eh bien, on en oublie que ces mots-là, vous êtes traductrice, hein, vous ouais. savez, que ces mots-là ont un substrat extrêmement concret au départ. Mmh. Alors, donc, il va être repéré, et puis il va rentrer au grand séminaire du noviciat des jésuites, qui va faire entre 1906 et 1914. Et à cette époque, eh bien, c'était l'époque aussi du modernisme. Le modernisme, on a peu idée de ce que c'était, que c'est aujourd'hui, mais c'était une grande tension qui pouvait y avoir aussi aux alentours de la fin du 19e et du 20e, avec la pensée positive d'Auguste Comte, avec toute cette volonté de croire que la science allait expliquer toutes les problématiques, et cette science qui pénétrait aussi dans l'exégèse, et notamment avec un Bultmann, qui est un contemporain de Marcel Jousse, avec toute une analyse des textes, mais qui décortique les textes de telle manière que c'est purement intellectuel. On essaye de voir la structure même du texte et on en oublie précisément cette dynamique du rythme et de la vie. Et Marcel Jousse va être, si vous voulez, dans ces grands courants de pensée hein, et va toujours redire avec force combien il faut retrouver les premières... les strates derrière le grec pour retrouver l'araméen et retrouver les forces de vie et dire avec force que les paroles de Jésus sont absolument authentiques. Alors qu'avec Bultmann et un certain nombre d'exégètes de l'époque, on pensait que déjà c'était la deuxième, voire la troisième génération qui avait réinventé le texte en fonction de leur ère du temps. Avec Jousse, on va essayer de retrouver les strates premières de la structure araméenne. Et donc, il y a aussi Étienne Dorn, qui est un de ses contemporains, qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'aller chercher à la racine des mots, et notamment donc l'emploi métaphorique des noms de parties du corps en hébreu et en akkadien. C'est très intéressant de voir comment l'hébreu va se servir des mots, des noms du corps, de notre corporalité, de notre incarnation, pour dire des choses métaphoriques, c'est-à-dire qui portent beaucoup plus large que le corps en lui-même. Alors, je donnerai peut-être quelques exemples dans ce sens-là, mais Jousse va être pétri de cette dynamique-là. Il n'oubliera donc jamais son enracinement de paysan et ce qu'il doit à sa maman qui lui a ouvert la porte du réel. Et sans cesse, eh bien, il va revenir à cette observation quasi scientifique, mais une science qui n'est pas la science des intellectuels, hein, qui est la science des observateurs paysans du réel. Il va faire son service militaire en 1907 et 1909, et là, il va rentrer dans l'artillerie comme sous-lieutenant de réserve à Rennes. Donc, il va devenir sous-lieutenant de réserve à Rennes en 1909. Il était un cavalier émérite, et c'est très important de le dire aussi, parce que dans cette relation qu'il y a au cheval, dans l'observation de la réalité du cheval, il y a une sensibilité particulière également au réel. Et il va être un très grand cavalier. Il va rentrer donc et va être ordonné prêtre en 1912 au séminaire. Et il dira sa première messe de Noël en 1912. Et il dira aussi, et ça c'est très important, la messe c'est sans cesse des paroles qui sont répétées. C'est sans cesse les mêmes paroles à la consécration et toutes les prières eucharistiques qui peuvent changer, mais la structure demeure la même. Il a dit « Je ne me suis jamais habitué à dire la messe. » Et ça aussi, c'est important. On a beau répéter quelque chose pour la centième fois, on découvre toujours quelque chose qui jaillit de nouveau de la parole de Dieu. Et cette disponibilité à la réalité de la parole vivante, et encore peut-être encore plus vivante, si j'ose dire, dans les paroles de la consécration, il y a quelque chose qui d'où sourd et d'où jaillit la vie. Et véritablement, à travers la mémorisation ensuite des évangiles, et nous y viendrons tout à l'heure, eh bien, il y a quelque chose qui se joue de toujours vivant, de manduquer, de mâcher, de mémoriser cette parole de Dieu. À chaque fois, elle nous ouvre à une réalité qui s'approfondit exactement comme on laboure un terrain et qui, ce terrain, va donner du fruit à force d'être cultivé. Il a été professeur au collège de Sainte-Marie de Caen et il continue des études de philologie classique. Il analyse la fameuse inscription de Delphes « Connais-toi toi-même ». Ça a été aussi son mémoire que d'essayer de travailler sur Plutarque et sur ce « connais-toi toi-même ». Ce « connais-toi toi-même », j'en dis un tout petit mot, la connaissance de soi chez les Grecs, puis chez les Latins, puis les philosophes qui ont suivi, la connaissance de soi passait par l'exercice des vertus. L'exercice des vertus, et notamment des vertus cardinales, je le dis rapidement, mais on pourrait insister là-dessus, parce que Jousse a été imbibé aussi de cette pensée-là. L'exercice des vertus que sont la prudence, la tempérance, la force et la justice. Et c'est en pratiquant ces vertus que l'on se connaît soi-même. Vous voyez la révolution qu'il peut y avoir au XXe siècle avec la connaissance de soi-même uniquement quand on va chercher les blessures de son enfance à travers la psychanalyse et le Freud. Hein, vous voyez la la transmutation du connais-toi toi-même qui s'est opérée au XXe siècle, alors que jusqu'au XXe siècle, le connais-toi toi-même passait précisément par l'exercice des vertus. Je le dis parce que c'est aussi quelque chose d'important. On a à cultiver sans cesse et non pas aller rechercher sans cesse la blessure qui nous empêcherait de vivre, d'aimer, etc. Et donc cette réalité est aussi d'ordre paysanne. Il commence son noviciat de jésuite à Canterbury en 1913 et il a 27 ans. Alors, c'est alors qu'éclate la Grande Guerre de 14-18. Il est officier artilleur et il est au front à la frontière de la Belgique. Et là, il fait les grandes batailles de Charleroi, d'Ypres et d'Arras. Il est croix de guerre avec palme, légion d'honneur, parce qu'il est au combat. Et au combat, c'est un très fin observateur de la réalité du terrain. Véritablement, il sait repérer les choses avec une grande, grande finesse et ses supérieurs reconnaissent en lui ses vertus incroyables d'observation de la réalité du terrain. Il est gazé, blessé par un éclat d'obus à Verdun et là, il aura une demi-surdité allant à s'aggravant. Alors, pendant ses gardes, pendant les gardes qu'il faisait sur les chantiers de bataille, au plus près du front, parce qu'il allait observer en sortant des tranchées pour essayer d'observer, eh bien, il avait avec lui les targoums. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont les targoums, mais c'est quelque chose d'assez étonnant aussi, dans la tradition orale d'Israël. Parce qu'il y a la Bible, et puis il y a aussi une retranscription targoumique, les targoums, souvent en araméen, pour justement essayer de donner des explications extrêmement concrètes de paroles qui ont tendance dans la parole biblique à ne pas être comprises précisément par le petit peuple. Et donc les targoums, c'est la parole de Dieu, mais avec toujours des niveaux explicatifs extrêmement concrets. Et bien entendu, Jousse était attiré par cette transcription qui a été d'abord totalement orale et qui a été mise ensuite par écrit, mais relativement tardivement. C'était donc les petits commentaires, un peu comme faisait le paracliteur par rapport à la parole de Dieu pour se faire bien comprendre concrètement des gens les plus simples. Alors donc, Marcel Jousse va être complètement imbibé par cette culture de l'oralité du temps de Jésus et du temps aussi de l'Ancien Testament. Il est donc blessé, et comme il est repéré, comme il est croix de guerre, comme il est légion d'honneur, eh bien, on le ramène pas au front, mais on va lui demander d'être instructeur aux États-Unis, et il part aux États-Unis comme instructeur en artillerie, puisque c'était sa spécialité. Et là, il va rencontrer les Amérindiens dans les réserves. En 1918, on est pratiquement à la fin de la guerre, là, en 1918, eh bien, il va rencontrer ces Indiens qui étaient parqués dans des réserves et qui n'étaient pas comme les Indiens qu'on voit aujourd'hui et qui sont souvent très pris par la culture américaine. Hein. Non, ils avaient gardé toute leur tradition et leur tradition, bien entendu, d'oralité, puisque les Indiens n'ont pas écrit leur histoire, mais se la transcrivent de la manière orale. Et précisément, il assiste et il est en contact avec un grand chef indien. Et là, il est saisi. Parce que dans ses réunions entre indiens qu'il observe, dans sa relation qu'il y a avec ce grand chef indien, il repère un certain nombre de critères qui sont ceux qu'il a observés quand il était petit dans les veillées sartoises. Alors c'est quand même incroyable. Cet enracinement dans la terre et dans l'observation du réel, eh bien, il la voit dans la gestuelle de ces Indiens qui reproduisent ce qu'ils observent à travers l'imitation des chants des oiseaux, de ce que fait un bison quand il attaque, etc. Et où tout le corps est mis dans cette dynamique de rythme et de vie et de saisie de la réalité. Et par conséquent, ça a été pour lui une expérience extrêmement forte. Il s'est dit, mais moi, petit sartois, il y a quelque chose qui est d'ordre extrêmement profond, qui correspond à la patte humaine quand je vois d'autres personnes qui sont imbibées de cette tradition qui ne passe pas par l'écrit. Ensuite, il revient. Et en 1920, il fait ses vœux pour rentrer dans la Compagnie de Jésus, chez les jésuites, et il y rencontre, à cette époque-là, une traditionnaliste, c'est-à-dire une personne qui s'intéressait beaucoup aux traditions orales bretonnes, qui est Gabriel Desgrais du Loup. On va retrouver ce nom-là dans les fondateurs de West France, je crois, les Desgrais du Loup. Et donc cette bretonnante qui observe et qui était très intéressée aussi par la transmission orale de toutes les comptines bretonnes, de toutes les légendes aussi bretonnes, que l'on va retrouver aussi avec Anatole Le Braz dans les légendes de la mort, eh bien de ressaisir aussi toute cette culture extraordinaire des milieux de style oral qui commençait à être éradiquée à l'époque. Quand on connaît les Bretons, les grands-parents bretons de cette époque-là, notre République et nos instituteurs avaient des instructions pour que les Bretons ne parlent plus breton. Et c'était véritablement... la culture bretonne a failli être totalement éradiquée à ce moment-là. Donc on luttait contre cette passation et ce savoir particulier que l'on considérait comme... un langage indigène, qu'il fallait se cultiver à l'aune de, uniquement du français. Voilà. Donc il poursuit des études en 1922-1925 et il va recevoir alors là une instruction par des maîtres absolument remarquables. Je pense notamment à Pierre Janet. Pierre Janet est un des professeur de médecine considérable. C'est lui qui a été à l'origine de la psychopathologie contemporaine et de la nosologie en psychiatrie contemporaine, Pierre Janet. Et Pierre Janet, ces gens-là étaient aussi des gens qui avaient une culture énorme. Et je ne citerai qu'une petite phrase de Pierre Janet, mais qui m'a marqué tout le temps, c'est celle-ci. « On ne pense pas avec sa tête... On pense avec tout son corps. On ne pense pas avec sa tête, on pense avec tout son corps. » Eh bien, ça, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important. Après, la psychiatrie s'est intéressée à tout ce qui se passait dans la tête, en oubliant la corporalité. Et précisément, après, des courants vont essayer de trouver la corporalité en oubliant tout ce qui se passe dans la tête. Vous voyez, cette importance de considérer tout le composé humain et ne pas le couper en rondelles psychologiques et somatiques, même si il faut quand même distinguer les plans. Penser, P-E-N-S-E-R. Penser vient du latin pesare, et pesare a une racine extrêmement concrète, c'est peser, sous-peser. La pensée, d'une certaine manière, est une évaluation qui est premièrement d'ordre physique, peser, pesare, penser. Vous voyez, ça ramène toujours à cette corporalité avant d'être stratosphérique. Et voilà, donc Pierre Janet, qui va être un instructeur magnifique de Marcel Jousse. Il va aussi faire des études à l'école d'ethnologie des hautes études de la Sorbonne, et avec un autre éminent personnage qui s'appelle Marcel Mauss. Marcel Mauss est le père de la sociologie contemporaine. Et il a été aussi, dans cette observation du réel tout à fait étonnante, l'anthropologie, à l'époque, était uniquement l'étude des crânes. Avec Marcel Mauss, on commence à essayer de voir la dynamique de l'homme dans sa vie. Et voilà. Donc, il reste encore un référent en sociologie et anthropologie, Marcel Mauss. Donc, ça a été un des maîtres également de Marcel Jauss. Il va donc être dans cette effervescence de la pensée du début du XXe siècle, mais le cœur du cœur du travail de Marcel Jauss a toujours été l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus a dit? Comment l'a-t-il dit? Avec quel geste l'a-t-il dit? Dans quel rythme l'a-t-il dit? Avec quel intensité de vie réelle l'a-t-il dit? Et de se séparer précisément de l'écrit pour retrouver ce substrat de vie qui ne passe que par l'enseignement dans l'oralité et non pas dans les bouquins. Alors là, il fait un travail considérable pour toujours essayer de se convertir au réel paysan, au réel où la parole de Dieu dit « et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Mais se faire chair pour Marcel Jauss, c'est se faire chair comme il s'est fait chair dans sa maman récitant la parole de Dieu, la transmettant à son fils comme son bien le plus précieux, dans une dynamique non pas livresque, non pas intellectuelle, mais dans une dynamique d'affection, de vie, d'amour, et où la vie demeure surabondante. Alors que l'écrit, même si il faut passer par là, peut devenir extrêmement desséchant quand il n'est pas animé par le souffle d'une parole qui dit cette parole. Je ne suis pas un inventeur, dit Marcel Jauss, je suis un découvreur. Et donc, il n'a rien inventé, mais il a toujours été dans cette saisie pour établir des ponts entre les différentes disciplines qui jusque-là étaient juxtaposées et étanches les unes aux autres. Il va en 1927, en janvier 1927, il a 41 ans et il est déjà connu pour ses travaux de recherche et il est reçu par l'Institut Pontifical de Rome. Et Pie XI, qui a reconnu son génie, cette manière de totalement nouvelle d'envisager la transmission des évangiles et cette vie qui sourd dans les évangiles, mais en même temps, et c'est ça qui est tout à fait étonnant et tout à fait magnifique dans Jauss, c'est qu'en même temps il est novateur dans cette manière d'appréhender les évangiles, mais en même temps il demeure dans la plus stricte tradition de l'Église catholique. Parce que la plus pure tradition de l'Église catholique, elle est transmette précisément cette dynamique de vie à travers la patristique, à travers les pères de l'Église, à travers tout ce qui a surgi de vie à travers la parole de Dieu. Et par conséquent, Pie XI repère précisément que les études historico-critiques de Bultmann précisément peuvent avoir quelque chose de desséchant quand elles sont très, très intellectualisantes. Et que le travail même de Jauss, qui repère le réel à travers son être paysan, eh bien, redonne une dynamique qui correspond précisément à la plus grande tradition de l'Église. C'est à cette époque-là qu'on commençait à sacrer évêques, parce qu'on parlait du sacre des évêques à l'époque, des indigènes. Et justement, il y avait tous nos gréco-latinistes intellectuels d'occidentaux qui ne supportaient pas qu'on puisse donner le sacrement d'évêque, enfin le sacre d'évêque, à des gens qui n'avaient pas cette culture classique. Or, c'était aussi un véritable combat que de considérer que l'Église osait précisément faire confiance à des gens qui étaient issus de l'oralité à l'époque. Et c'est ainsi qu'un des grands exégètes, qui s'appelait Léonce de Grandmaison, eh bien, il était question à cette époque-là aussi de traduire l'évangile en berbère. Mais Léonce de Grandmaman, un très grand exégète, disait « Mais attention, il faudrait arriver à saisir en même temps toute la dynamique de l'oralité de la culture berbère pour arriver à véritablement traduire les évangiles à travers donc, cette culture faite de formules, faite aussi de saisie de la réalité. » Donc la traduction va jusqu'à essayer de repérer précisément ce composé humain pour non pas plaquer nos propres conceptions, mais concevoir que des peuples issus de l'oralité ont une richesse propre qui vont redynamiser justement une parole qui s'est déjà transmise oralement avec Jésus. Continue à mémoriser jusqu'à aujourd'hui la Torah, les musulmans le Coran, les hindous les Upanishads. Que faisons-nous de cette parole de Dieu? Et il disait, nous devrions être les tabernacles vivants de la parole de Dieu. Les tabernacles vivants de la parole de Dieu, c'est-à-dire en étant totalement imbibés, mais imbibés parce que nous aurions mémorisé cette parole de Dieu comme notre bien le plus précieux. Il disait, l'écrit est un transport, mais la parole elle-même est vivante. Alors c'est ainsi qu'il a été à étudier tout ce qui pouvait se passer à l'époque sur les cultures de type oral. Et donc il a été, son premier livre a été le style oral. Il dit qu'il a compulsé 5000 livres, parce qu'il ne se contentait pas que de l'oralité. Hein. Il a été un très, très, très grand érudit, 5000 livres. Il en a retenu 500 pour faire ce livre, qui a été son premier livre, le style oral, et où il va chercher dans toutes les cultures précisément ce qui a trait à l'oralité et à la transmission orale. C'est là qu'il va rencontrer Gabriel Baron. Gabriel Baron qui a écrit le livre donc, de Marcel Jousse, Mémoire vivante. Je voudrais dire un petit mot de Gabriel Baron, parce que donc, c'est à peu près en 1980 que j'ai rencontré l'œuvre de Marcel Jousse, et c'est en 1983... que j'ai rencontré pour la première fois Gabriel Baron. Gabriel Baron était la fidèle secrétaire de Marcel Jousse. Et si Gabriel Baron n'avait pas été là, eh bien, je pense que l'œuvre de Jousse aurait disparu. Elle a fait un travail considérable de compilation. Nous en reparlerons plus tard, mais Jousse a donné des cours à l'École des hautes études, à la Sorbonne. Il est devenu professeur émérite. Tout le monde se pressait à ses enseignements. Il n'avait pas un papier et il imitait tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il était là dans la dynamique de vie. Il était capable d'imiter un crapaud à la Sorbonne. Alors, c'est en soutane. Donc, ça décoiffait un petit peu, si vous voulez. Mais... Et voilà, donc parce qu'il n'avait pas oublié que le milieu duquel il était issu. Et par conséquent, c'était ça qui précisément rendait bouche bée son auditoire, si vous voulez. Hein, donc voilà. Cette dynamique de Gabriel Baron qui a été... Alors, je voudrais donc en dire quelques mots de Gabriel Baron. Parce que quand j'ai lu l'Anthropologie du geste, puis ce livre qui m'a beaucoup marqué de Gabriel Baron, je me suis dit, mais cette femme a écrit ce livre quasiment avec son sang. C'était véritablement sa vie qu'elle avait donnée à Marcel Jousse pour tourner. Et je suis allé la voir, elle habitait rue des Martyrs, à Paris. C'est une rue qui monte vers Montmartre. Et là, elle habitait dans un appartement qui était vraiment extrêmement vétuste. Et j'étais déjà assez marqué par l'extrême pauvreté dans laquelle elle était. Elle avait donné sa vie pour Marcel Jousse. Et elle donnait à ce moment-là des cours de rythmo-catéchèse. Marcel Jousse est à l'initiative de toute une manière de mémoriser l'Évangile, nous y reviendrons, basée sur le rythme et l'heure. Et donc Gabriel Baron était là, dans cet immeuble vétuste, et j'ai été absolument saisi par la limpidité de cette personne, par son extrême pauvreté. Elle avait pratiquement rien pour vivre. L'association payait son logement ainsi que son chauffage, etc. Elle vivait dans un extrême démunement et son seul désir, c'était d'être au service de l'œuvre de Marcel Jousse et puis derrière ce service de l'œuvre de Marcel Jousse, au service de la parole de Dieu, transmise dans cette dynamique d'oralité. Et donc, elle avait un petit groupe de rythmo-catéchèse, et elle était là, et elle n'avait qu'un désir, eh bien, c'est que, précisément, cette manière de percevoir l'Évangile, de la retransmettre, puisse source, précisément, de cette revitalisation de la parole, par la parole de Dieu. Et donc, voilà, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, et j'ai été toujours extrêmement touché par la précarité de cette femme. Et ça m'a aussi marqué de voir comment Dieu se servait de la plus grande simplicité, de la plus grande pauvreté pour transmettre sa vie la plus précieuse. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On entend ça hein, dans les évangiles, dans la parole de Dieu. On avait Naaman avec cette petite fille hein, qui a été prise dans une razzia et qui va... Vous voyez, l'extrême précarité, l'extrême pauvreté dans laquelle Dieu se coule pour venir toucher et donner la vie. Eh bien, d'une certaine manière, Gabriel Baron m'a saisi à travers... ce qu'elle pouvait être, et cette vie donnée au service de Marcel Jousse et de la parole de Dieu. Je l'ai rencontrée aussi, il y avait à Fresnay-sur-Sarthe, en 1986, il y avait le centenaire de Marcel Jousse. Et donc, à Fresnay-sur-Sarthe, parce que Marcel Jousse est enterré à Fresnay-sur-Sarthe, et donc il y avait une plaque avec le nom de la rue hein, de Marcel Jousse qui était donné ce jour-là. Et il y avait Gabriel Baron qui était vieille à l'époque et qui n'entendait presque plus, qui voyait à peine et qui tenait la barre sur laquelle était inscrite la rue. Et il dit « Marcel Jousse m'a toujours soutenu dans la vie. » Et dans un balancement... Elle dit, à moins que ce soit moi qui l'ai soutenu. Et là, on a tout juste, vous voyez, dans cette dynamique balancée, et nous y reviendrons. Voilà. Il n'y a donc pas de théorie chez Marcel Jousse. Il n'y a qu'observation du réel. Il y a conversion au réel. Alors, nous allons peut-être essayer de rentrer maintenant dans les découvertes qu'il a pu faire, ce Marcel Jousse. Et notamment la découverte du rythme. La découverte du rythme qui est à l'intérieur même de notre structure corporelle. Si vous fermez les yeux et que vous êtes debout, si vous fermez les yeux et que vous vous mettez debout, vous allez être pris d'un incessant mouvement antéro-postérieur. C'est le premier des mouvements. Si vous fermez les yeux, que vous mettez debout, il y a des muscles agonistes et antagonistes, et vous allez être dans un mouvement antéro-postérieur, comme ça. C'est le premier mouvement, le premier de base. Et quand on regarde la structure même de l'évolution des espèces, je ne vais pas rentrer ici dans les histoires d'intelligence design ou autre, mais quand on voit la structure même de l'animal, vous voyez que la colonne vertébrale est exactement comme un serpent, Et vous voyez que cette colonne vertébrale, les serpents les plus frustes, n'ont de muscles que postérieurs. Ils n'ont de muscles que postérieurs, ils n'ont pas de muscles antérieurs. Seuls les serpents qui sont capables de se redresser ont des muscles antérieurs. Donc la structure musculaire la plus archaïque chez nous est une structure donc, de la colonne vertébrale, hein, avec des muscles postérieurs, et quand le serpent est capable de redresser, des muscles antérieurs. C'est la structure de base. Et donc on va retrouver ça précisément de ce mouvement antéro-postérieur. Vous voyez ? Le serpent n'étant... Voilà. D'ailleurs, à cette période-là, le serpent ne peut pas reculer, il ne peut qu'avancer. Et donc, si on va voir des animaux qui sont un petit peu plus évolués, si vous voulez, vous avez les amphibiens qui ont des rotations, des mouvements qui peuvent de rotation interne, qui peuvent les faire avancer, mais pas qui peuvent les faire reculer. Donc vous voyez, c'est déjà une élaboration plus importante, et puis qui peut faire alternance entre la droite et la gauche. Donc vous voyez, vous avez un premier mouvement qui est antéro-postérieur, et un mouvement qui déjà est plus élaboré entre la droite et la gauche. Donc le premier mouvement, Jousse va dire, c'est le mouvement du fardeau. Le mouvement du fardeau, de quelqu'un qui porte la charge. Le mouvement de l'âne, le mouvement du cheval, mais le mouvement du baudet, hein, si vous voulez, qui va porter de manière antéro-postérieure la charge. Et le mouvement latéral, c'est le mouvement du joug, parce que les paysans, on ne les voit plus maintenant, mais on les voit encore dans certains pays, quand vous avez une paire de bœufs, hein, qui avancent pour tracer un sillon, vous les voyez dodeliner de droite et de gauche. Donc le premier mouvement est un mouvement donc, du fardeau, le deuxième mouvement du joug. Le joug et le fardeau. Donc vous voyez que si vous combinez ces deux mouvements du joug et du fardeau, eh bien vous arrivez au bercement. Parce que vous avez dans la structure humaine trois axes. En anatomie, on apprend l'anatomie à partir de trois axes. Un axe antéro-postérieur, qui donne le mouvement antéro-postérieur, vous voyez, un mouvement latéral et un mouvement de haut et de bas. Et on va, à partir de ces trois axes et de ces directions, structurer l'observation de notre corps. Avez-vous remarqué que le monde, tel qu'il est, le monde, hein, la Terre, les étoiles, le cosmos, n'a pas de direction. Il n'a pas de direction. Il n'a de direction qu'à partir du moment où, en fonction de notre expérience de corporalité, d'avant, d'arrière, de droite, de gauche, de haut et de bas, on va lui en donner une. C'est ainsi qu'on va orienter une carte. Mais une carte du monde n'a pas d'orientation en elle-même, vous voyez ? Donc, c'est à partir de l'expérience corporelle que l'on va observer le monde et on va lui donner un sens d'avant, un sens d'arrière, de droite, de gauche, de haut et de bas. Vous me suivez, hein ? Et par conséquent, vous voyez, donc, dans ce mouvement, qui est un mouvement antéro-postérieur, qui est un mouvement latéral et qui est un mouvement de haut et de bas, si vous compilez les trois directions, les six directions et les trois axes, si vous voulez, vous aboutissez au bercement, parce que c'est un bercement. Or, tous les peuples de l'oralité ont transmis leur savoir et leur observation sur le monde à travers une dynamique de bercement. Et vous avez les Juifs qui vont mémoriser la Torah avec le bercement, les Arabes, les musulmans qui vont bercer, les petits hindous qui vont aussi être dans ce bercement, les Africains, tous les peuples de l'oralité vont retranscrire l'observation du réel à travers cette dynamique gestuelle qui nous dit en même temps la cosmogénèse, c'est-à-dire que nous sommes mémoire, notre corps est mémoire du cosmos. Nous sommes aussi phylogénèse, c'est-à-dire que nous sommes mémoire de notre espèce. d'homme, en l'espèce humaine, si vous voulez. Et nous sommes également mémoire ontogénèse, c'est-à-dire chaque personne a sa propre histoire, de la conception, voilà. Et donc, vous voyez, cette mémoire du composé humain, nous la portons à l'intérieur de notre corporalité. Est-ce que je suis clair? Mais vous voyez, alors que, et je reviens à mes amis qui étaient dans des conceptions gnostiques, soit bouddhistes, soit ésotériques, si vous voulez, là, quand je dis ça, tout homme peut se retrouver là-dedans. Nous sommes dans l'anthropos, nous sommes dans l'homme, mais nous ne sommes pas dans l'explication d'un mystère de l'homme. Nous sommes dans une observation du composé humain. Voilà. Donc ça, c'est très important, parce que nous ne nous enfermons pas dans un système. Nous sommes dans une observation de la réalité. Vous me suivez? Oui? Voilà. Voilà. Donc, vous voyez cette dynamique donc de antéro-postérieur, latéral, au bas, est le bercement. Or, donc, le monde, on l'a dit, n'a pas de direction en soi. Mais la notion même du temps, d'avant, d'arrière, de droite, de gauche, de haut et de bas, n'a de signification qu'en fonction de notre incarnation. C'est-à-dire que l'avant va devenir le futur, l'arrière le passé, la droite va dire ce qui est droit, et la gauche ce qui est sinistre. Et pourquoi? Et ça, c'est très intéressant. Parce que dans l'hémisphère nord, quand vous êtes dans l'obscurité la plus complète et que vous êtes attiré par une lumière, si la nuit est noire et qu'il n'y a pas de lune, eh bien, c'est le soleil qui va attirer tout votre regard. Et précisément, si vous suivez le cycle du soleil, eh bien, vous allez tourner vers votre droite et vous allez laisser à gauche l'ombre. Donc il ne s'agit pas de quelque chose de péjoratif au départ, hein, ou de morale, mais il s'agit d'une observation de la réalité cosmique. Je suis clair. Et donc c'est pour ça que dans les langues indo-européennes, eh bien, vous avez toujours à droite positif, parce que c'est le côté de la lumière, et à gauche c'est la sinistra. Donc voilà. Alors vous voyez aussi donc, que cette expérience corporelle d'avant, d'arrière, de droite, de gauche, est aussi une retranscription de la réalité de notre vie. Et puis le haut va être le ciel, et le très haut va être les cieux. Et le bas va être la terre, et le très haut va être les enfers ou la géhenne. Donc cette structuration de l'espace est d'ordre anthropologique. Dans toutes les cultures d'oralité, vous aurez la même dynamique. Donc on n'est pas là dans une culture particulière, mais dans une relation à la réalité du monde. Or, précisément, donc Jousse va dire, le mouvement antéro-postérieur est le mouvement du fardeau, de l'âne qui porte son fardeau. Droite et gauche, latéralement, et le bœuf. Le bœuf et l'âne qui porte le fardeau pour l'âne et le bœuf qui porte le joug. Et vous avez au cœur du cœur, vous avez donc six directions, trois axes, mais vous avez un point central qui est immuable, par lequel vous êtes obligé toujours de passer corporellement. Ce lieu, c'est le cœur, c'est le centre, c'est le sept. Or, il se trouve que précisément toute la structuration de la Genèse passe par 6 jours de création et le 7e jour, Dieu se reposa. Vous voyez cette structuration anthropologique. Dieu est le lieu du repos, le lieu par lequel on repasse tout le temps, dans l'espace. Vous me suivez là? Le cœur de Jésus, eh bien, va se retrouver aussi là. Parce que Jésus va dire au centre de l'évangile de Matthieu, il va parler lui aussi du joug et du fardeau. Et vous voyez la relation qui peut s'extraire. C'est-à-dire que, et là peut-être pourrions-nous le chanter, parce qu'on est quelques-uns à savoir ça, cet évangile de Matthieu, où on va retrouver toute cette dynamique du balancement de la vie, et au cœur du cœur se situe le cœur de Jésus, qui va battre et donner toute sa dynamique de vie, parce qu'il est le cœur du cœur. Et voilà l'évangile de Matthieu.
C'est
venu
vers
moi. Oui. Venez vers moi, vous tous qui peinez et qui êtes surchargés, et moi, je vous ferai reposer. Soulevez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que doux je suis et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et ma charge légère. Le cœur du cœur se situe à cet endroit-là. C'est le cœur du cœur de la découverte de Marcel Jouss, à travers cette anthropologie qui prend en compte tout le cosmos, tout le composé humain, à travers aussi la réalité du paysan qui observe cette âne et qui observe ce bœuf. Après, il y a plein d'analogies à faire. Les pères de l'Église et la tradition juive disent que l'âne représente les goyes, les païens. Et le bœuf, c'est celui qui porte le joug de la Torah. Eh bien, on a là, dans nos crèches, eh bien, le bœuf et l'âne, qui, d'une certaine manière symbolique, va représenter le peuple juif et le peuple païen. Et puis, il y a d'autres analogies à faire qui sont extrêmement fortes. Par exemple, deux attributs du cœur de Jésus, sa douceur et son humilité. Eh bien, si vous regardez bien, c'est les deux premières béatitudes. Heureux les humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. Or, l'humilité, dans la tradition juive, c'est Ani. Et Ani, c'est le pauvre. Mais avant d'être le pauvre, ça veut dire quelque chose qui veut dire courbé. C'est encore une fois un geste extrêmement concret. Les Anaïm, ce sont ceux qui sont courbés par le poids de la vie, par le poids de la maladie, par le poids de l'indigence, par le poids de l'épaisseur de ce qu'ils sont en train de vivre. Et par conséquent, vous voyez donc, les humbles de cœur, il y a derrière tout un geste, toute une gestuelle, tout un mouvement que le paysan va découvrir derrière cela. Et par conséquent, donc, heureux les humbles de cœur, ceux qui sont penchés, ceux qui sont penchés. Le royaume des cieux est à eux. C'est assez curieux, hein, de voir que c'est à travers précisément cette humilité, cette petitesse, que le royaume des cieux s'ouvre. Et le deuxième attribut du cœur de Jésus, c'est sa douceur. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Et donc, vous avez là la terre promise, vous avez le ciel, et vous êtes au cœur du cœur du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vous voyez que tout ce langage de l'oralité des évangiles est extrêmement construit. Et précisément, si nous ne passons pas par cette observation concrète du réel vivant, eh bien, nous pouvons faire des abstractions intellectuelles, mais nous ne saisissons pas cette saisie de la globalité du réel. Et je pense véritablement que Jouss est un prophète à cet endroit-là. Non pas que... vous voyez, il redécouvre cette dynamique de la globalité. Et je crois profondément qu'aujourd'hui, Si nos contemporains sont attirés par tant de méthodes et techniques ésotériques de développement personnel et que sais-je, complètement, mais alors complètement farfelues et en apesanteur du réel, c'est parce que nous avons perdu ces lois fondamentales de la dynamique de vie et de la transmission orale. Redécouvert donc par Jousse. C'est pas pour rien que dans nos banlieues, des jeunes sont en train aujourd'hui d'être complètement coupés au niveau de l'éducation, qui sont capables de rien dans les classes et qui sont capables de réciter des choses absolument incroyables, de rap sans se tromper. Hein ? Parce que précisément, ils sont habités par cette dynamique, vous voyez, de retransmettre quelque chose à travers le rythme. Parce que là, nous sommes là à l'intérieur d'anthropologie du réel. Donc vous voyez ce mouvement sans cesse de la rythmique que l'on va retrouver au cœur des évangiles. Au cœur des évangiles, et précisément avec Jousse, tout va être bilatéralisé. Bilatéralisé, c'est-à-dire que, vous voyez, on va avoir un premier segment de phrases, et puis il va y avoir une proposition à droite, une proposition à gauche, et une proposition centrale. Si nous allons rechercher les structures araméennes et hébraïques derrière le grec et derrière le latin, bien entendu, Jousse a fait ce travail absolument étonnant d'aller rechercher précisément cette dynamique de la gestuelle à partir des strates premières de la transmission orale de Jésus. Vous me suivez là ou pas trop ? Voilà. Donc, on va retrouver tout ça dans une traduction qui peut paraître un peu étonnante, si vous voulez, mais où il va y avoir des briques, hein, des briques, une brique centrale, une brique de droite, une brique de gauche. Venez vers moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, vous voyez qu'il y a une et on va retrouver le cœur au centre. Donc, à l'intérieur même de la transmission de cette parole-là, vous voyez, il y a une structuration qui correspond à notre corporalité. Et ça, c'est très important également. Donc, vous voyez cet aspect de bilatéralisation qui va se retrouver dans l'écrit et dans la transmission faite par Marcel Jousse. Voilà. Donc, c'est à travers ces perspectives en même temps nouvelles et en même temps anciennes que nous avons à redécouvrir sans cesse ce message d'une parole qui est vivante et qui sourd toujours. Voilà. Et ceux qui ont fait cette expérience de mémoriser l'Évangile savent bien qu'à des moments très particuliers où précisément on vit des moments de fragilité, où les secours humains sont un petit peu plus ténus, eh bien, de se replonger à l'intérieur de cette parole, eh bien, cette parole fait ce qu'elle dit. Comme les sacrements qui font ce qu'elle dit. La parole fait ce qu'elle dit. Gabriel Baron en a fait l'expérience. À un moment de son existence, elle était complètement dépressive et elle croyait qu'elle allait mourir. Et tout doucement, Marcel Jousse l'a rebercée. Elle lui a récité des récitatifs. Et elle dit qu'elle a repris vie à travers cette parole de Dieu, mais à travers ce bercement incessant. Jousse n'avait pas oublié que dans les sillons de sa terre natale, sa maman le prenait sur ses genoux pour lui dire le plus précieux d'une parole qui est toujours vivante. Une parole qui est près de toi, qui est sur ta bouche, incessamment sur ta bouche pour qu'elle tombe dans ton cœur. Et mystérieusement, cette parole devient acte. La parole est tout près de toi, elle est sur ta bouche, dans ton cœur et dans tes mains pour la mettre en pratique.
La parole est tout près de toi, elle est sur ta bouche et dans ton cœur et dans tes mains pour la fête.